Des hommes? Non. Implacable. Insaisissable. Invincible. Insensible. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour...
Culture prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture prohibée. Culture prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone et filmsdelagorgone.fr. Culture prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast, disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
I love you. And I want to marry you.
Oh, darling, if we only could... But I couldn't have you pitied because of me. I love you too much.
Helen, I need you more than anything.
Bob.
Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée à une légende du cinéma qui est honorée d'un coffret par nos amis d'Elephant Film. D'ailleurs, l'équipe de Culture Prohibée en profite pour remercier Victor Lopez pour son aide sur cette émission. Donc ce coffret, c'est Rock Hudson, portrait d'une légende. Donc vous l'avez deviné, on va beaucoup parler aujourd'hui de Rock Hudson. On va même parler uniquement de Rock Hudson, et on va le faire en compagnie de Denis Rossano. Que vous connaissez, il était venu nous parler du cinéma pré-code déjà dans Culture Prohibée. On avait passé un très bon moment, donc on a décidé de nouveau de passer un très bon moment. Culture Prohibée est donc consacrée à Rock Hudson, et en particulier à ce coffret, portrait d'une légende, dans lequel on peut voir les films Iron Man de Joseph Pevney, un film de 51, La légende de l'épée magique de 53 de Nathan Duran, Le secret magnifique de Douglas Sirk en 54, Confidence sur l'oreiller, un film de Michael Gordon de 1959, deux films de Robert Mulligan de 1961 et 62, Le rendez-vous de septembre et L'homme de Bornéo, une comédie d'Howard Hawks, sa dernière d'ailleurs, un film de 64, Le sport favori de l'homme, Étrange compagnon de lit, un film de 65 de Melvin Frank, Les yeux bandés de Philippe Dune, un film de 66, et enfin Tobruk Commando pour l'enfer d'Arthur Hiller. Tout de suite, je vous propose de retrouver donc Denis Rossano qui est co-auteur avec Adrien Gombeau du livre de 96 pages qui est présent dans ce coffret, livre qui s'appelle, tout comme le coffret, Rock Hudson, portrait d'une légende. Pour les gens de ma génération, c'est vrai que Rock Hudson, ça a longtemps été la première star américaine qui était décédée du sida. Il y avait eu cette découverte, oh là là, incroyable, Rock Hudson était homosexuel. Et c'est vrai que c'était une star, en fait, dont les gens de ma génération vont peut-être plus se rappeler pour ce fait-là, malheureusement, triste, qu'en fin de compte, une carrière qui a été une carrière de vedette assez longue.
Vous avez entièrement raison, je pense qu'il y a toute une génération, la vôtre notamment, pour qui Rock Hudson est vraiment identifié au sida et à la révélation de son homosexualité, à une époque où être homosexuel, en plus à Hollywood, était vraiment encore très tabou. Et donc, quelque part, en fait, ça a réduit l'image de Rock Hudson à quelque chose d'extraordinairement fort. À l'époque, quand même, lorsque l'homosexualité de Rock Hudson et sa maladie ont été dévoilées, ça a vraiment transformé la perspective que les Américains pouvaient avoir sur le sujet. Donc, quelque part, c'est très important. Mais Rock Hudson, c'est bien plus que cela. Et je pense qu'il y a aussi une autre génération, beaucoup plus récente, pour qui Rock Hudson, malheureusement, personnellement, je trouve que c'est malheureux, est associé au personnage qu'un acteur l'a incarné, tel qu'il a été incarné dans la série Hollywood de Ryan Murphy. Et où, en fait, le personnage de Rock Hudson dans la série est très, très, très éloigné de la réalité et en fait le porteur d'un espèce d'un imbécile, en fait. Rock Hudson, c'est quand même, c'est quelques-uns des plus grands films de l'histoire du cinéma. Il faut lui redonner sa place en tant qu'acteur aussi, je trouve. Il a été réduit à son espèce d'image de son physique. C'était un très grand garçon, très beau, très baraqué. Et on l'a beaucoup réduit à ça. Même beaucoup de critiques l'ont réduit à ça, en fait. Et aujourd'hui, avec le recul, revoir ses films, en sachant qui il a été dans sa vie intime, ce qu'il a incarné à l'écran. Je trouve qu'on découvre une richesse énorme au personnage qu'il apporte. Je trouve qu'il y a quelque chose de très très poignant et de très ambigu qui le rend finalement très moderne, alors que certains grandes stars, certains autres acteurs de l'époque, finalement, n'ont pas forcément passé le passage du temps, n'ont pas aussi bien vieilli, finalement, je trouve. Et en plus, je dirais juste, il est né le 17 novembre 1925, donc j'étais les 100 ans de sa naissance, en fait. Très bientôt.
Ryan Murphy, c'est pas le plus non plus, le plus léger des auteurs de séries télé aux États-Unis. Il a tendance à pousser les potards.
D'accord.
Voilà.
Bon. Absolument. Et en fait, son projet était une espèce de vision révisionniste de Hollywood où il apportait des happy ends et des choses. Enfin, c'était pour moi qui suis un cinéphile, un historien de cinéma, c'était pratiquement irregardable. Et j'ai peur que malheureusement, beaucoup de jeunes gens qui voient cette série pensent que vraiment, ce qu'ils voient dans la série, c'est la réalité. La vérité de Rock Hudson est totalement autre, en fait.
Il est révélé, Rock Hudson, en fait, quelque part, par un film... c'est écrit même dans le livre, hein, de relativement fan, il devient superstar, et il amène tout de suite quelque chose en plus, c'est à travers le film de Douglas Sirk, Le Secret Magnifique, qui est un vrai... c'est vraiment le film du changement pour Rock Hudson.
Absolument. Alors, jusqu'au Secret Magnifique, Rock Hudson est une starlette. C'est une star mineure. Il joue dans des tas de films d'aventure. On voit dans ses films qu'il a une présence, qu'il a un charisme, mais il ne fait pas preuve d'un talent extraordinaire d'acteur. Et d'ailleurs, la Universal, jusqu'à ce moment-là, ne pensait pas vraiment qu'il allait devenir quelque chose d'aussi important. Et puis, Douglas Sirk le découvre. Douglas Sirk joue un rôle essentiel non seulement dans la carrière, mais dans la vie de Rock Hudson. Il devient un peu le père de substitution et aussi le mentor. Et en fait, Douglas Sirk a toujours eu, entre autres, parmi tous ses talents, il avait un œil pour découvrir des grands acteurs et savoir, il voyait des gens et il pouvait deviner ce que la caméra allait faire d'eux. Et c'est ce qu'il fait avec Rock Hudson. Il le découvre, il lui donne un petit rôle dans une comédie absolument charmante d'ailleurs, avec Piper Laurie, qui était une des grandes amies de Rock Hudson. Et il sent qu'il tient une pépite. Mais c'est une pépite, encore, il faut tout raffiner encore. Et donc, Le Secret Magnifique est un film très important pour l'Universal. Le projet commence en 1953. C'est le remake d'un énorme succès des années 30, qui a d'ailleurs fait d'une superstar, d'un acteur peu connu, d'une superstar, c'est Robert Tyler à l'époque. Et c'est un film qui est centré sur le personnage de Gene Wyman. C'est du mélodrame délirant. C'est vaguement religieux, mystique. Ça ne fait vraiment aucun sens. Mais Douglas Sirk comprend comment il peut utiliser ce matériau et le transcender. Et il atteint au sublime. C'est vraiment un film, je trouve, d'une beauté sidérante. Mais on est dans l'univers d'un mélodrame quasi mythologique qui frôle la tragédie grecque, qui frôle le ridicule, et en même temps ça fonctionne. Et il a compris, quand il découvre Rock Hudson, qu'il détient là un acteur qui va pouvoir incarner une espèce de mythologie aux yeux des Américains. Et en fait, le film, qui devient un succès colossal, transforme Rock Hudson de star mineur, non seulement en superstar, mais en espèce d'idéal. Et à partir du Secret Magnifique, Rock Hudson, c'est l'Américain viril idéal. Un homme masculin, viril, très fort, très grand, très beau, et en même temps, qui n'est pas ce qu'on appellerait aujourd'hui représentatif d'une certaine masculinité toxique, en fait. C'est pas le macho Rock Hudson. Il a une espèce de vulnérabilité, de fragilité, qui s'allie à sa virilité, et je pense vraiment très sincèrement que une grande partie de cette vulnérabilité vient des secrets que lui, en tant qu'être humain, détient, qui est entre autres son homosexualité, que bien sûr il ne peut pas dévoiler, et aussi le fait qu'il a vécu une enfance assez difficile, même très très difficile par moments, et que tout ça en fait nourrit qui il est et ce qu'il va apporter à l'écran. Et je pense qu'il l'apporte à l'écran même de façon quasiment inconsciente. Et tout au long de sa carrière, quels que soient les genres de rôles qu'il va jouer, que ce soit dans la comédie, le film d'aventure ou le mélodrame, il va toujours avoir cette alliance de grand américain idéal, parfait, c'est vraiment l'homme américain idéal, mais avec quelque chose derrière, une espèce de fracture qui le rend, je trouve, très très fascinant et très ambigu en fait.
Alors, ce que vous me dites là, ça m'évoque trois choses, du coup. Alors, à la fois, je pense qu'on peut dire... Bon, on est là pour parler de Rock Hudson, mais on peut quand même dire aussi que Le Secret Magnifique, c'est le film de la mue de Douglas Sirk. C'est-à-dire que c'est Douglas Sirk transforme, révolutionne à tout jamais le mélodrame et son propre cinéma. Et à côté de ça, Rock Hudson, c'est aussi, vous l'avez dit, l'homme idéal. Sans doute ce qui fait qu'on a sous-estimé du coup ses qualités d'interprète parce qu'il devient une sorte d'homme idéal. Et aussi, a posteriori, et on le voit par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, par rapport à la série de Ryan Murphy, c'est aussi un homme dont la grande virilité, mais une virilité subtile, va aller aussi à l'encontre des clichés que l'on veut bien véhiculer sur l'homosexualité et qui, je l'espère, sont révolus, qui veut qu'un homosexuel ait forcément... Il y a forcément un côté efféminé. Donc, en fin de compte, Sirk plus Rock Hudson, tout ça, c'est une certaine expression d'un certain modernisme, en fait. C'est pour ça qu'il est un acteur intemporel.
Absolument, absolument. Et je pense que c'est le... Alors, c'est pas le premier acteur homosexuel. Il y en a eu d'autres avant. Il y a eu Rudolph Valentino, Ramon Navarro, un acteur très célèbre des débuts du parlant qui s'appelait William Hanks. Mais tous, évidemment, cachaient leur homosexualité. Rock Hudson la cache aussi, mais elle fait vraiment partie intégrante de qui il est, dans le sens où il la vit, dans sa vie intime, il est ouvertement homosexuel. C'est pas comme Anthony Perkins, par exemple, qui va toujours avoir une espèce de conflit intérieur entre son homosexualité et qui il voudrait être. Rock Hudson n'a pas ce problème-là. Rock Hudson vit son homosexualité, il la cache, mais il la vit. Et en fait, comme tous les gens qui l'ont rencontré le disent, il était dans la vie comme il est à l'écran. C'est un homme quand même, il est l'Américain idéal viril. Alors le fait que l'homme américain idéal viril puisse être homosexuel, en plus dans les années 50, qui est une époque très très répressive, aujourd'hui, l'ironie est quand même assez flagrante. Je pense que pour l'époque, ça a dû être très difficile à vivre. Beaucoup d'homosexuels américains, évidemment, ont souffert de ce qu'on appelle... il y a eu une espèce de purge qui accompagnait le macartisme, et beaucoup d'homosexuels ont été victimes de cela. Rock Hudson, évidemment, et faisant partie de l'élite hollywoodienne, n'a pas été victime de cela. Il était quand même fiché par le FBI, quand même. Mais bon, il a assumé son homosexualité de façon intérieure, dans sa vie privée. Elle s'est reflétée, je crois, à l'écran. Et effectivement, on voit aujourd'hui tous ses films en sachant qui il était. Et je pense qu'effectivement, beaucoup de gens ont réalisé « Ah, mais un homosexuel, ça peut aussi être ça », c'est-à-dire un homme tel qu'on s'imagine, pas juste un efféminé, maniéré. Il y a beaucoup de films de l'époque qui présentent en filigrane des personnages dont on se bonheur qu'ils sont gays, et tous sont très maniérés. Il y a une espèce de cliché, depuis d'ailleurs les années 20, dans tout le cinéma américain, qui associe l'homosexualité à des hommes efféminés. Et Rock Hudson, c'est l'opposé de cela. Et du coup, quand en 1985, sa maladie et son homosexualité sont révélées au grand public, je pense que le choc, c'est aussi en grande partie que les Américains réalisent « Mon Dieu, mais un homosexuel, c'est aussi quelqu'un comme Rock Hudson ». Et je pense que ça a énormément changé la vision que les États-Unis pouvaient avoir de l'homosexualité, d'une manière positive, même si malheureusement, Rock Hudson en a été la victime en fait.
Écoutez Denis Rossano au micro de Culture Prohibée.
Mais Rock Hudson, il amène autre chose. Alors on l'a dit tout à l'heure, ça vient peut-être aussi de son enfance. Vous en parlez dans le livre Rock Hudson, Portrait d'une légende. Alors, il s'appelle Roy Fitzgerald. Il est d'extraction fort modeste parce que c'est aussi l'ascension d'un gamin qui est modeste en fait, l'histoire
Absolument.
De Rock Hudson.
Alors ça c'est fascinant en fait. Je pense que l'enfance, comme beaucoup de stars d'ailleurs, les enfances des stars sont souvent des clés pour comprendre qui ils sont à l'écran. Rock Hudson, c'est le petit... D'abord, il vient du Midwest. Il vient de l'Illinois, d'une petite ville qui s'appelle Winnetka. Et ça, je trouve que c'est très important parce qu'en fait, il va, tout au long de sa carrière, en fait, cette image de l'homme du Midwest va l'accompagner, en fait. Il va jamais vraiment s'en détacher. Et en fait, il incarne... C'est en cela qu'il est un Américain idéal. C'est qu'il n'est pas... Il ne fait pas partie d'une élite de la West Coast ou de la East Coast. Ce n'est pas New York ou Los Angeles. C'est vraiment le Midwest. Il est d'une famille très modeste, très heureuse dans les premières années. Mais en fait, il y a, comme beaucoup d'histoires de famille, il y a des secrets. Et notamment, il semblerait qu'en fait, son père n'était pas son vrai père, qu'il était le fils de l'amant de sa mère. Le père, celui qui l'a élevé, s'en va, c'est la crise économique. Il quitte la famille et Rock Hudson se retrouve, enfin, qui s'appelait à l'époque Roy, se retrouve tout seul avec sa mère. Et à partir de là, son enfance devient absolument terrible, notamment lorsque sa mère se marie en seconde noce avec un homme extraordinairement violent qui va les battre tous les deux, qui va tenter de faire de Roy un homme, entre guillemets, donc ce qui laisse supposer que peut-être cet homme-là devinait que Roy n'était pas un petit garçon comme tous les autres. Et c'est là, en fait, où je pense qu'il y a en Rock Hudson, on va retrouver ça dans tous ses films, une espèce de nostalgie de quelque chose qu'il a perdu. Et ce qu'il a perdu, c'est ses premières années d'une enfance paradisiaque. Ça a disparu, et je pense que ce manque est toujours resté en lui et se reflète dans les personnages qu'il incarne, ou dans la manière dont il les incarne. Et il y a aussi le fait que, étant un enfant battu, violenté par son beau-père, et qui en plus se découvre homosexuel assez vite, il se réfugie au cinéma, et le cinéma devient son univers, cette petite bulle protectrice, où il va commencer à fantasmer sur d'autres acteurs. Notamment, il y a un acteur qui devient son idéal, qui s'appelait John Hall, qui était très très célèbre à l'époque, John Hall, qui a joué dans beaucoup de films d'aventure exotique. Et il y a notamment un film de John Ford, qui est d'ailleurs formidable, que je recommande, qui s'appelle Hurricane, l'ouragan, avec Dorothy Lamour. Et John Hall, c'est un film de John Ford, et John Hall est dénudé du début jusqu'à la fin. Et il y a une espèce d'homo-érotisme latent qui est très étonnant pour les années 30. Et Roy Fitzgerald, qui deviendra Rock Hudson, voit ce film quand il est petit garçon, et devient complètement amoureux de John Hall. Et ça va bâtir en lui cette idée qu'il veut devenir une star. Il ne veut pas devenir un acteur, Roy. Il veut devenir une star, il veut échapper à cet univers oppressant dans lequel il vit. Et il nourrit en lui cette idée de gloire, de célébrité, qui va probablement dans son imaginaire le protéger de tout ce qu'il subit. Et en fait, ça va le guider. C'est-à-dire que j'ai envie de dire que le fait qu'il soit un enfant malheureux et qu'il soit un homosexuel va en fait lui permettre de devenir une superstar. Ça va lui donner une force, en fait. Au lieu de le détruire, ça va l'aider à atteindre cette espèce de célébrité immense que très peu d'acteurs vont atteindre, en fait.
Et d'ailleurs, vous écrivez dans votre livre là, qu'il va vite comprendre qu'il a un physique exceptionnel. Bon, c'est vrai qu'il est beau, il mesure 2 mètres, ce qui est plutôt rare à l'époque, hein, des hommes d'une taille aussi grande, et qu'il ne va pas hésiter à coucher pour réussir. Et il va faire ça avec un certain Henry Wilson, qui va faire de ce jeune Roy, un peu gauche, un mélange de rusticité et de sophistication. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce sulfureux Henry Wilson, qui est un personnage que je ne connaissais pas avant de lire là, Rock Hudson, Portrait d'une légende?
Alors, Henry Wilson est un personnage qui me fascine. Il y a eu une biographie qui a été sortie, qui est publiée aux États-Unis sur lui. C'est le mélange, Henry Wilson, c'est le mélange du glamour hollywoodien et de tout ce que Hollywood peut avoir de sordide. Parce que les deux, en fait, Hollywood, les deux existent à Hollywood. Et souvent, les deux vont main dans la main. Et Henry Wilson, c'est exactement ça. Henry Wilson, il est issu d'un milieu plutôt très, très privilégié, parce que son père était le patron de Columbia, pas le studio, mais les disques, Columbia. Et donc, il grandit dans un milieu très privilégié, il rencontre des gens très célèbres très vite. Henry Wilson est homosexuel, il est aussi passablement laid, et au fur et à mesure qu'il va vieillir, il va devenir de plus en plus laid. Mais en même temps, il a une espèce de... une confiance en lui qui fait qu'il ne va jamais hésiter à aborder des garçons très très beaux. Et le fait est que Henry Wilson devient à Hollywood quelqu'un de très important. Il commence comme journaliste, après il devient agent, et il travaille vraiment de manière officielle et très sérieuse avec les plus grands noms d'Hollywood, et notamment David O. Selznick, que tout le monde connaît comme étant le producteur d'Autant l'emporte le vent. Il va aider à découvrir Lana Turner, John Fontaine. Donc c'est vraiment quelqu'un de très important. Mais à côté de cela, Henry Wilson devient un peu le proxénète d'Hollywood, en fait. Et il va fournir aux producteurs, aux réalisateurs ou aux femmes des producteurs, soit des garçons, soit des jeunes femmes. Donc, Henry Wilson, c'est quand même c'est le plus reluisant. Et il se trouve un talent extraordinaire. Enfin, extraordinaire. Il a le talent pour, en fait, aller traîner dans des endroits où il va découvrir des jeunes hommes qui l'excitent, lui, personnellement, et des jeunes hommes qui n'ont aucune formation d'acteur, et il va les transformer en stars. Alors, il y a des tas d'acteurs que certains on peut se rappeler, par exemple, de Tab Hunter, qui a été une des grandes stars des années 50. Il a notamment découvert un acteur dans les années 40 qui s'appelait Guy Madison. Guy Madison est totalement oublié aujourd'hui, mais si on regarde les photos de Guy Madison, on les trouve sur Internet, on voit que c'était vraiment une espèce d'idéal du GI américain. Alors, le fait est que Henry Wilson couche, ou essaye en tout cas de coucher avec tous ces garçons, qu'ils soient homosexuels, bisexuels ou hétéros, il va toujours essayer. Mais en même temps, si un garçon refuse ses avances, il ne va pas pour autant le négliger. Il a cette espèce de fantasme de créer pour le cinéma américain l'homme parfait. Et l'homme parfait, selon Henry Wilson, il est grand, il est baraqué, il est blanc, évidemment, à l'époque, ce sont des hommes blancs. Et il va en fait aider à former une certaine image qui perdure aujourd'hui. Il suffit de regarder les superstars masculines, sex symboles américaines d'aujourd'hui. Beaucoup sont des grands baraqués. Et ça vient vraiment, c'est l'héritage d'Henry Wilson. Et la plus grande découverte d'Henry Wilson, c'est Rock Hudson. Il le découvre alors que Rock Hudson est encore très jeune, malhabile, très timide. Bizarrement, Rock Hudson était à la fois sûr de son physique et en même temps quand même très timide, gauche, effectivement, il n'a aucune éducation. Et en fait, Henry Wilson tombe sous son charme, devient donc son amant, mais en même temps, on va le transformer, en fait. Le transformer même physiquement, mais aussi dans ses manières, dans sa façon de parler, et va lui donner des cours, va en fait l'entretenir pendant quelques années. Et il sait, Henry Wilson, il sait, même si au début c'est vraiment difficile, que personne n'en veut, il sait qu'il détient avec ce garçon la possibilité d'une très grande star. Et en fait, effectivement, Rock Hudson va devenir une star énorme. Ça va être le plus grand succès de la carrière de Henry Wilson. Ce qui est relativement triste, c'est qu'en fait, au fur et à mesure que la carrière de Rock Hudson s'étend et il devient vraiment la superstar numéro 1 aux États-Unis des années 50, des années 60, la carrière de Henry Wilson, elle, va péricliter, et notamment parce qu'en fait ces méthodes qui sont quand même assez sulfureuses commencent à faire jaser et sont de plus en plus mal vues. Et finalement, en fin de vie, Henry Wilson est pauvre, alcoolique, complètement abandonné de tous, et Rock Hudson ne parlera plus jamais de lui, plus jamais. Donc, et quand Henry Wilson meurt en 1978, aucun mot de Rock Hudson. C'est comme si Rock Hudson en fait avait évacué de son existence, celui à qui il devait pas tout, mais enfin énormément quand même.
Vous écoutez Culture Prohibée spécial Rock Hudson, portrait d'une légende, disponible chez Éléphant de Film.
Vous l'avez dit à l'instant, De Niro Sano, le démarrage de la carrière de Rock Hudson n'est pas simple. Alors, il démarre sous... un truc que j'ai appris en lisant le livre, c'est pareil. Il n'est pas pris sous contrat à la MGM parce que c'est un studio anti-gay. Alors ça, c'est quand même assez incroyable. C'est incroyable, oui et non, mais en tout cas, c'est toujours assez surprenant quand on voit en plus le potentiel de Rock Hudson. Et effectivement, des débuts difficiles, il démarre aidé par Raoul Walsh, qui le prend dans Les Géants du Ciel en 48, mais ça se passe pas bien les premières prises. Et puis, il finit par avoir un contrat avec la Universal qui va complètement bouleverser, changer sa vie, quoi.
Oui, alors, ce qui est fascinant quand vous parlez de la MGM, il faut dire que l'homosexualité à Hollywood, tout le monde... Il y avait énormément d'homosexuels à Hollywood, donc comme dans tous les milieux artistiques. Quand il s'agissait de réalisateurs, de directeurs artistiques, de créateurs de costumes, il n'y avait aucun problème. tous les studios avaient employé des homosexuels, c'était connu. Tout le monde savait que George Cukor était homosexuel, que James Whale, des gens comme ça. Quand il s'agit des acteurs, là, ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'il faut cacher l'homosexualité de ces gens-là au grand public. Le grand public, il n'en a rien à foutre de George Cukor. Mais quand il s'agit d'une superstar, le grand public veut tout savoir de sa vie privée. Et là, ça devient très compliqué pour les studios. Donc effectivement, quand Rock Hudson fait un premier test à la MGM, il n'est pas encore façonné de façon à projeter une image totalement hétéro. Donc la personne qui s'occupe de ça, qui le voit, devine qu'il est, se dit... Il est vraiment fort possible que ce garçon soit homosexuel, et elle sait très bien que pour le studio, c'est non. Immédiatement, c'est non. Donc Henry Wilson va s'efforcer de forger ce Rock Hudson très masculin, très viril, et d'effacer toute trace visible, j'ai envie de dire, de son homosexualité. Et donc, il y a ce contrat avec Raoul Walsh. Alors, Raoul Walsh était à l'époque un des très grands réalisateurs d'Hollywood, très macho d'ailleurs, l'équivalent d'un John Huston ou d'un Howard Hawks. Alors, est-ce que Raoul Walsh, je pense que Raoul Walsh savait absolument que Rock Hudson était gay. Je pense qu'il n'en avait rien à faire, en fait. Et il essaye d'en faire quelque chose, ça ne marche pas vraiment. Mais alors, c'est là où il y a cette espèce d'intervention, j'ai pas envie de dire intervention divine, mais c'est quand même une coïncidence extraordinaire. Au moment où on ne sait plus très bien quoi faire de Rock Hudson, où Raoul Walsh pense le lâcher, arrive. La proposition de Universal de l'employer. Alors, ce qui se passe, c'est que la Universal, à l'époque, est en grand changement. Elle vient de s'allier avec une autre compagnie qui s'appelle Universal International. Et en fait, leur politique, c'est d'abord de faire beaucoup de films en couleur, en Technicolor, à l'époque où le Technicolor est vraiment le plus flamboyant qu'on puisse imaginer, et aussi de recruter énormément de jeunes, parce que la Universal a compris qu'il y avait un nouveau public, qui était le public des adolescents, des jeunes, qui jusqu'à maintenant n'étaient pas vraiment ce que les studios visaient, et qu'il faut donc fournir à ce jeune public de nouvelles stars. Et donc il y a des tas de nouvelles recrues qui sont comme ça employées recrutées par la Universal, et comme dans tous les studios à l'époque, la Universal a au sein de son studio une espèce d'école, et il y a cette femme qui s'appelle Sophie Rosenstein, qui est une professeure, qui va apprendre à tous ces jeunes à jouer. Et très vite, Sophie Rosenstein va vraiment se concentrer sur Rock Hudson, parce qu'elle aussi comprend qu'il a un potentiel. Le potentiel de Rock Hudson, c'est qu'au-delà de son physique, tout le monde est impressionné par son physique. Ça, c'est indéniable. Et d'ailleurs, Henry Wilson va beaucoup jouer là-dessus pour le lancer, en faisant des promotions qui sont vraiment liées au physique de Rock Hudson, au point qu'en fait, on l'appelle le baron de Beefcake. Beefcake, c'est l'équivalent masculin des pin-up. De toutes ces jeunes femmes plus ou moins dénudées qu'on voyait sur les couvertures des magazines. Donc, Rock Hudson, c'est ça au début. Mais quelqu'un comme Sophie Rosenstein comprend très très vite qu'en creusant tout le potentiel de Rock Hudson, elle va pouvoir faire émerger son talent. Et c'est ça que je trouve formidable, c'est que quelqu'un comme Rock Hudson qui n'a aucune formation d'acteur, qui vient de son petit village du Midwest, qui n'a jamais rien appris, en fait, a ce talent inné, et qu'il fallait quelqu'un comme Rosenstein, quelqu'un comme Douglas Sirk, voire aussi quelqu'un comme Henry Wilson, pour... En fait, c'est un diamant brut, en fait, et ils ont taillé, et le diamant émerge. Et quand on voit la carrière de Rock Hudson, on découvre des films magnifiques, mais aussi des performances magnifiques. Donc celui qui était au départ un pin-up boy, que personne ne prenait au sérieux, va dévoiler un talent extraordinaire, mais malheureusement, pendant très très longtemps, les critiques ne vont pas voir cela, en fait. Même encore jusque dans les années 80, jusqu'à l'époque où il va mourir, il n'est pas tellement pris au sérieux, Rock Hudson. Et je pense que c'est quelque part, ça l'a toujours un peu... Je pense qu'il en a souffert, il aurait voulu, parce que ici c'est quand même le Graal, obtenir un Oscar. Il a été nommé une fois, mais il ne l'a jamais obtenu. Et je pense qu'il en a souffert, en fait, de ne pas être pris au sérieux.
Il est quand même resté en haut du box-office pendant 15 ans. C'est 15 ans qui sont couverts là, par le coffret, mais 15 ans, c'est énorme. Il y a très peu de stars qui durent 15 ans. Il y a
la plupart des stars durent 5 ans, 6 ans, personne ne dure 15 ans quasiment. Enfin, je veux dire, même le vedettariat, je pense que le plus long en France doit être Alain Delon, il doit faire, c'est pareil, c'est un vedettariat d'une quinzaine d'années et qui se termine par des films moins intéressants. C'est incroyable qu'un acteur avec une telle carrière, effectivement, ait été si peu pris au sérieux.
Absolument. Alors déjà, c'est vrai qu'à l'époque, ce qu'on appelle l'âge d'or hollywoodien, les carrières sont relativement brèves. Alors, il y a des exceptions qui sont les légendes comme Gary Cooper, Clark Gable, Cary Grant, par exemple. Mais leur carrière, en fait, ne dure pas plus. Elle dure 20 ans, 15-20 ans. Rock Hudson, qui commence donc dans l'après-guerre, devient la star populaire, la plus grande star populaire du monde à partir du milieu des années 50. Il garde cette position jusqu'au milieu des années 60 et même après, il continue à rester une très grande star. Et notamment, il va basculer dans la télévision où il va faire une série qui va devenir très, très, très populaire et qui va aider en fait à montrer un nouveau Rock Hudson un peu plus âgé à une nouvelle génération. En fait. Donc, Rock Hudson aux États-Unis, c'est une carrière énorme et il est au sommet. C'est-à-dire qu'une fois qu'il atteint les sommets, Rock Hudson ne quittera plus jamais les sommets. Ce n'est pas comme certains acteurs qui après deviennent des acteurs de composition ou des acteurs de second rôle. Ça n'arrivera jamais avec Rock Hudson. Et en plus, il va toujours garder, même en vieillissant, où on le voit bien qu'il vieillit, qu'il est parfois, il s'empâte un peu, mais il garde quand même un physique très charismatique, à la différence de beaucoup d'acteurs qui en fait vieillissent prématurément. On regarde Clark Gable à la fin de sa vie, ou Errol Flynn par exemple, ou Alan Ladd. C'est presque tragique de voir comme ils ont vieilli. Rock Hudson va garder cette espèce de charisme physique jusqu'à la fin, jusqu'au moment en fait où il a le sida, et là où le sida le détruit totalement. Et ça aussi, c'est un choc, je pense, pour les Américains, quand ils découvrent les images d'un Rock Hudson émacié, très très malade, c'est-à-dire l'opposé de ce qu'il a incarné pendant toute sa carrière. Et voir ces photos encore aujourd'hui, je trouve que c'est très choquant. Et c'est tragique, c'est vraiment poignant en fait. Il y a quelque chose de très émouvant, je trouve, dans le fait que cet homme homosexuel qui est devenu une superstar, qui cache son homosexualité au monde entier pour pouvoir rester une superstar, qui y parvient, mais finalement, le destin fait qu'il va mourir et son homosexualité va être dévoilée au monde entier, alors qu'il a tenté de la cacher quand même. Il n'en avait pas honte, mais je pense qu'il était très conscient que cela nuirait à sa carrière, en fait. Et il a toujours dit, d'ailleurs, Rock Hudson, qu'en fait, il ne sait jamais. Mais c'est aussi une autre époque. À l'époque, il ne s'identifiait pas comme gay, comme on dirait aujourd'hui. Les droits des gays, vraiment, il s'en moquait un peu. Alors évidemment, il faisait partie d'une élite privilégiée. Il avait sa bande d'amis, il avait ses amants, il pouvait faire ce qu'il voulait. Donc il était un peu au-dessus de la problématique ou du quotidien des gays américains qui n'étaient pas célèbres. Mais quelque part, je trouve que c'est poignant de réaliser qu'en fait, il a beaucoup fait pour la cause gay, mais ce qu'il a fait pour la cause gay, c'est quand il est mort en fait. C'est pas tout au long de sa vie, c'est après.
Vous écoutez Denis Rossano, co-auteur de Rock Hudson, portrait d'une légende, disponible chez Éléphant de Film au micro de Culture Prohibée.
Rock Hudson n'a pas fait comme Madison, il n'a pas terminé en allant tourner des petits films en Italie, dans des films qu'on peut bien aimer, des films populaires, mais qui étaient bien loin du fast hollywoodien. Rock Hudson, c'est vrai que c'est resté une star. Dans le coffret, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on peut voir son évolution. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, Iron Man de Joseph Pevney, parce que je vais reprendre un peu les films du coffret, la Rock Hudson, ouais. Portrait d'une légende, avec une actrice que j'adore, qui je trouve, là, est complètement tombée dans l'oubli, qui s'appelle Evelyn Case, que je trouve extraordinaire. Alors, c'est pas son meilleur rôle.
Elle est magnifique, Evelyn Case.
Elle est extraordinaire, magnifique. On est d'accord. C'est une actrice incroyable, ouais. Qui est tombée dans l'oubli.
Tombée dans l'oubli, malheureusement, alors qu'elle a été quand même très très populaire. Elle a été révélée par Autant l'emporte le vent. Elle joue l'une des sœurs de Vivienne Leigh. Et elle a vu vraiment une carrière très importante dans les années 40 et première moitié des années 50. Et elle a été l'épouse à un moment de John Huston. Mais une actrice qui a une personnalité incroyable et une présence à l'écran incroyable. Et là, c'est un de ses derniers grands rôles, enfin de premier rôle en fait. Après, on la verra dans le second rôle, et notamment, on la verra dans 7 ans de réflexion de Billy Wilder. Mais là, déjà, sa carrière est en déclin. Evelyn Keyes fait partie de ces actrices oubliées qui mériteraient d'être découvertes. Elle a vraiment une filmographie passionnante, et notamment dans le film noir. Elle a fait plusieurs films noirs qui sont vraiment superbes.
Ah oui, elle est extraordinaire dans le film noir. Bon, là, elle est un peu la pierre angulaire d'un triangle. Elle tombe amoureuse en fait d'un type qui est Jeff Chandler, qui est un mineur qui va devenir un boxeur et puis qui va avoir comme ami d'ailleurs Rock Hudson qui est un Rock Hudson débutant, qui est un Rock Hudson un peu tendre, surtout à côté de Jeff Chandler qui est un acteur très animal, très oui. impressionnant oui. dans le regard. Et là on sent sincèrement, là on sent que c'est le beau gosse qui est mis en avant, c'est-à-dire que c'est la beauté de Rock Hudson qui est mise en avant, qui contraste en fait avec le côté presque entre guillemets, parce qu'évidemment j'en ai pas un, mais un côté presque animal, presque sauvage de Jeff Chandler, dont on sent que c'est un boxeur dans le film en plus qui a pas de technique, mais qui est capable d'assommer, de tuer quelqu'un d'un seul coup, qui est d'une force surhumaine, qui ne se contrôle pas.
Alors Jeff Chandler fait partie de ces nouveaux acteurs que la Universal va lancer. Et effectivement, il a un physique très impressionnant, il a une gueule impressionnante, il a ce regard très impressionnant. Et c'est vrai que Rock Hudson, en contraste, même s'il est plus grand et s'il est lui aussi extrêmement baraqué, dégage une fragilité. Et je pense que c'est là l'un des secrets de Rock Hudson, comme je le disais précédemment, ce mélange de virilité et de vulnérabilité. Et le film joue beaucoup là-dessus, et d'ailleurs, c'est ce film-là qui vraiment lance la carrière, la première phase de la carrière de Rock Hudson. Il reçoit un coup du courrier incroyable de fans, son nom commence à être connu, mais c'est vraiment parce que on le voit en boxeur, donc dénudé en grande souvent dans plusieurs scènes, et les gens fantasment sur le corps de Rock Hudson. Donc vraiment, il est... En fait, ce qui se passe avec Rock Hudson, c'est qu'au début de sa carrière, il est un peu traité par le studio, par l'Universal, comme les actrices étaient traitées. C'est-à-dire qu'il est sexualisé, il devient un objet sexuel. Ce qui était assez rare à l'époque pour les hommes. On voyait beaucoup ça avec les femmes. Alors, on peut citer toutes les plus grandes stars féminines hollywoodiennes, presque toutes. Elles étaient vraiment transformées en symboles sexuels, en objets sexuels. Chez les hommes, c'est beaucoup plus rare. Alors, Henry Wilson est en partie responsable de ce changement. Il a fait ça avec Guy Madison, que vous avez évoqué. Mais effectivement, Guy Madison, même s'il atteint une certaine célébrité et devient une espèce de pin-up boy, il n'atteindra jamais la gloire de Rock Hudson. Mais Rock Hudson, à ses débuts, c'est ça. C'est le pin-up boy qui montre son corps, que tout le monde peut désirer, et qui en même temps n'est pas dangereux. C'est pas... Il a quelque chose de... Alors, je cite un article dans ce que j'ai écrit, ou un article d'un magazine de l'époque qui dit que Rock Hudson est pur. Et en fait, ça, ce concept de la pureté de Rock Hudson est assez important parce qu'il dégage cette espèce de... En fait, il a un côté grand garçon, pas petit garçon, mais grand garçon, en fait. C'est un homme, mais il y a le petit garçon qui apparaît à travers cet homme. Et donc, cette espèce de pureté qui fait rêver les Américains. Et là encore, on rejoint cette idée du mythe de l'homme idéal américain. Et donc, Iron Man joue beaucoup là-dessus. Et à l'époque, effectivement, il est encore très très jeune, Rock Hudson. Il n'est pas encore... Il joue bien, il est charismatique, mais il n'est pas non plus l'acteur qui va devenir. Mais le film lui met le pied à l'étrier, en fait. Et c'est à partir de là que tout va commencer.
Et après, là, dans le coffret, il y a aussi un film qui pour moi est une petite merveille, pour qui a gardé son âme d'enfant, qui est un film de Nathan Duran, alors qui est plus passé à la postérité pour son travail avec Ray Harryhausen, entre autres Le Septième Voyage de Sinbad, mais qui s'appelle la légende de l'épée magique, et c'est comment dire, il y a des princesses, il y a tout ça, et là on voit un Rock Hudson, alors là il a déjà pris une certaine aisance il y a deux ans entre les films,
on voit la différence, absolument.
Exactement, une star de film d'action, là on voit une star de film d'action, et c'est assez impressionnant parce que en fait, et c'est là où je veux en venir sur Rock Hudson, c'est que là, on voit une star de film d'action juste après. Il fait Le Secret Magnifique, mélodrame circien dont on a parlé tout à l'heure. D'ailleurs, sur l'affiche, il y a une position de l'homme qui se met en infériorité par rapport à la femme qui est assez intéressante, oui. Je trouve. Et après, il va enchaîner sur plein de comédies romantiques. En fait, c'est un acteur, il apprend le métier en même temps qu'il fait les films, mais il est ultra complet, quoi.
Absolument. Alors, donc, il commence en tant que pin-up boy. Il devient le héros de quatre films d'action, des séries B, mais très, très jolies. Effectivement, La Légende de l'Épée Magique, c'est une petite merveille. Le Technicolor est délirant. On baigne dans les roses, des mauves, des violets. Il y a des scènes étonnantes. La scène de la danse, une espèce de danse des sept voiles qui est absolument incroyable. Et il s'en sort très, très bien. Il est effectivement très charismatique. Il est très à l'aise dans l'action. Il y a des gros plans sur lui. Il montre vraiment à quel point il est beau. Il a énormément... Il y a une espèce d'alchimie entre lui et sa partenaire qui est Piper Laurie, avec qui il était très ami dans la vie. Et donc, ça fait partie de ces petits films des années 50 qui, à l'époque, marchaient bien, mais n'étaient pas considérés vraiment par les critiques, et qui, avec le recul du temps, je trouve, se part d'un charme absolument ineffable. Je pense que ce sont des films qu'on peut revoir, on retrouve, comme vous l'avez dit, en fait, on retrouve son âme d'enfant quand on regarde ce film-là. Et immédiatement après, il passe au Secret Magnifique. Alors, le Secret Magnifique, il faut dire que Douglas Sirk, qui savait que c'était un film très important, et aussi Ed Mole, qui était le grand patron de la Universal, comme ils misent beaucoup sur ce film, ils vont quand même faire préparer Rocket Sun pendant 6 mois, ce qui à l'époque est jamais vu. Donc il y a 6 mois de préparation pour Rocket Sun, au point que d'ailleurs, il lui-même, à un moment, va avoir les nerfs vont casser, il pense qu'il ne peut pas faire le film. Donc c'est vraiment un très gros projet sur lequel il travaille énormément, énormément, énormément. Les critiques ne vont pas prendre le Secret Magnifique au sérieux. D'ailleurs, tous les films de Douglas Sirk de l'époque, les critiques ne les prennent pas au sérieux. Mais le public ne s'y trompe pas. Je pense. Le public s'y précipite. Et je crois que ce que le public comprend peut-être inconsciemment, c'est qu'à travers ces mélodrames délirants, flamboyants, qui ne font pas nécessairement sens, qui sont hors de la réalité, on y trouve une vision de l'Amérique, une espèce de portrait de l'Amérique absolument d'une justesse. C'est comme si Douglas Sirk en fait faisait un portrait au scalpel de l'Amérique, mais qu'il cachait tout ça sur des couleurs, sous des histoires d'amour. Et je pense que le public ne s'y trompe pas, en fait, et notamment le public féminin. Et c'est pour ça que Rockelson devient en grande partie l'idéal pour beaucoup de femmes, c'est qu'il est dans ces films-là le héros parfait, mais à travers ce héros, on découvre les failles du pays. Alors il y a le Secret Magnifique, il y a le film extraordinaire de Douglas Sirk, encore Jane Wyman, Tout ce que le ciel permet, qui est quand même un portrait impitoyable de l'Amérique provinciale. Et puis il y a Écrit sur du vent, qui est pour moi, je crois, le film qui est peut-être le plus proche de ce que Scott Fitzgerald a fait en littérature, dire montrer toute la fracture américaine. Et Rocketson est au cœur de ce film. Alors même si c'est pas lui le personnage le plus fragilisé, mais il est quand même, encore une fois, l'idéal américain dans ce film-là. Et donc, il devient le symbole romantique du cinéma américain, qu'il va également jouer dans une très grosse production qui est L'adieu aux armes, avec Jennifer Jones, énorme film dans lequel il incarne le héros écrit par Ernest Hemingway. Et immédiatement après, il passe à la comédie, ce qui était très inattendu. Et là, il va triompher. Alors, il y a Confidence sur l'oreiller, qui est dans le coffret, avec Doris Day, qui pour moi est une merveille. Confidence pour l'oreiller, même si le contexte de l'histoire a vieilli, pour moi, c'est l'un des films les plus drôles de l'âge d'or hollywoodien. Et là aussi, l'alchimie entre Doris Day et Rocket Sun est absolument impayable. C'est vraiment remarquable. Et ils vont faire d'autres films ensemble. Et là, Rocket Sun, de héros romantique, devient héros de comédie américaine. Et c'est le début de ces comédies qui parlent de sexe, ce qui à l'époque était assez osé. Et il va en faire comme ça une ribambelle, notamment avec aussi Gina Lollobrigida. Et là, il y a deux films avec elle qui sont dans le coffret. Mais parallèlement, il continue aussi à être un héros d'aventure. Alors, on le voit dans Géant, avec Elizabeth Taylor. Mais il va faire aussi des grands films d'aventure, des films d'action. Donc, il joue sur tous les registres. Et à chaque fois, ça marche, en fait. C'est-à-dire qu'il n'est jamais à côté de la plaque. Ça, je trouve ça assez étonnant. On peut faire un parallèle avec quelqu'un comme Gregory Peck, qui lui aussi incarnait un certain idéal américain. Mais par exemple, Gregory Peck dans la comédie, ça ne fonctionne jamais vraiment. Il n'est pas très doué pour la comédie, Gregory Peck. Rocketson, lui, aucun souci. How does he do it? He's going on raw courage now. Remember, the night is young and he's not.
Vous écoutez Culture Prohibée, spécial Rocketson.
Effectivement, il y a toute une partie alors, qu'on retrouve bien dans le coffret. Hein. On a parlé de Confidence sur l'oreiller, comédie très sophistiquée, un peu moins sophistiquée, mais très intéressante aussi, ne serait-ce que parce qu'elle est signée Robert Mulligan, il y a les rendez-vous de septembre.
Oui.
Qui est quand même, Mulligan, c'est quand même voilà, quelqu'un d'important. Aujourd'hui, en tout cas, dont le travail est réévolué. Il y a Étrange compagnon de lit aussi avec Gina Lolo Brigida aussi, et puis il y a la comédie ultime d'un des maîtres du genre quand même. On l'associe souvent au western avec Rio Bravo, La Rivière Rouge, tout ça, mais ou au film noir avec Le Port de l'Angoisse ou Le Grand Sommeil, mais c'est Howard Hawks, parce que dans le sport favori de l'homme, il réunit en 64, donc Rocketson et Paul Apprentice, sur fond de concours de pêche. Faut pas oublier qu'il avait fait L'Impossible Monsieur Bébé, et là c'est un film quand même. Alors on parlait à l'instant de ces comédies qui ont comme sujet central le sexe, et là c'est quand même un film aussi qui est assez provocateur, assez moderne, qui a eu un petit succès à l'époque, mais à revoir aujourd'hui, c'est un film très étonnant.
C'est un film très étonnant, c'est aussi, je crois, une des meilleures comédies de Howard Hawks. C'est un film qui a été assez problématique à l'époque, au moment du tournage, ça a été compliqué. Howard Hawks lui-même n'était pas très content de Rocketson. Rocketson lui-même avait l'impression que Howard Hawks ne lui faisait pas confiance. Il y avait aussi Paul Apprentice qui, apparemment, était un peu extravagante sur le tournage. Et pourtant, le résultat fonctionne à merveille. Je trouve que c'est vraiment une des dernières très grandes comédies de l'âge d'or hollywoodien. Et là encore, c'est assez. D'ailleurs, il faut le noter quand même. Bon, Rocketson homosexuel peut-être, mais enfin, il y avait quand même une alchimie avec beaucoup, beaucoup d'actrices. Et avec Paul Apprentice, il y a des étincelles. Et effectivement, même si ce sont des films qui parlent du sexe tel qu'on le concevait à l'époque, dans les années 60, ça reste quand même relativement moderne, je trouve. Ça fonctionne toujours très, très, très bien. Et c'est très drôle. Et alors le film, en fait, était Howard Hawks le voyait un peu comme une espèce de remake de L'Impossible Monsieur Bébé. Et d'ailleurs, il voulait même, à un moment, il pensait avoir Catherine Hepburn et Cary Grant dans les deux rôles principaux. Mais je trouve que finalement, c'est beaucoup mieux d'avoir des acteurs plus jeunes, que Rocketson et Paul Apprentice, plutôt que Cary Grant et Catherine Hepburn. Et le film, qui a été un succès modéré. Ça n'a pas été un succès énorme, mais ça n'a pas été un échec non plus. Mais revu aujourd'hui, je trouve qu'on réalise à quel point c'est vraiment un des grands Hawks de la dernière phase de la carrière de Howard Hawks.
Et puis dans ce coffret, il y a aussi des films un peu à part. On parlait tout à l'heure du Mulligan. Il y a un autre Mulligan qui est L'Homme de Bornéo. Et vous l'écrivez dans le livre Rocketson, Portrait d'une légende, donc qui accompagne le coffret éponyme, la sortie chez Éléphant de Films, de Niro Sano. C'est qu'il y a toute une série de films comme ça que va faire notre ami Rocketson, dans lesquels, en tout cas, il veut sortir de son image un peu lisse, un peu romantique. Et il va faire ça, il fait l'Opération Diabolique. Un film énorme de Frankenheimer, pareil, réalisateur qu'on réévalue à juste titre aujourd'hui. Mais il n'arrive pas à sortir de cette image vraiment, en fait. Malgré ces films qui vont devenir des petits classiques, enfin plus l'Opération Diabolique que L'Homme de Bornéo, Rocketson reste un peu enfermé, ça le désole un peu, cette image de personnage de comédie, de genre idéal, un peu en quelque sorte, quoi.
Oui, je pense qu'il s'en est. Il le dit, hein, qu'il s'en est lassé. Au bout d'un moment, il s'en est lassé. Je dirais que quand il arrive vers le milieu des années 60, il a fait beaucoup de ces comédies-là. Certaines sont moins bonnes que d'autres. Et il commence à en avoir un peu assez. Et il voudrait. Il a toujours ce besoin d'être reconnu en tant qu'acteur. Il a la gloire, il a la célébrité, il a l'argent, il a tout ce qu'il veut, mais il n'a pas la reconnaissance, en fait. Et il l'a eu brièvement avec Géant, l'énorme film de George Stevens avec Elizabeth Taylor et James Dean. Mais Géant, à l'époque, c'était James Dean, donc Rocketson a un peu souffert de la comparaison avec James Dean. Et quand il y a L'Homme de Bornéo qui débarque comme projet, il se dit, voilà, ça c'est mon nouveau Géant, c'est le film qui va révéler aux gens que je suis vraiment un grand acteur, et il espère même avoir au moins être nommé aux Oscars pour ça. Le film, que moi je trouve, c'est un film assez étonnant, que j'aime beaucoup, mais qui ne va pas fonctionner à l'époque, alors que c'est quand même un grand casting. Il y a Gina Rowlands notamment, que je trouve, qui à l'époque était magnifique. Il y a Burl Ives. C'est vraiment un très très beau film, mais les gens vont pas accrocher. Et ça va être une très grosse déception pour Rock Hudson, qui du coup, je pense, Rock Hudson va balancer le reste de sa carrière entre ce que les gens attendent de lui et des films dont il espère qu'ils vont montrer autre chose de lui. Alors, il y a le film de Frankenheimer qui n'est pas dans le coffret, mais qui est une merveille. Et le film de Frankenheimer est peut-être le plus symbolique, je crois, de la fracture intérieure de Rock Hudson. C'est que vraiment, on voit un homme double dans le film de Frankenheimer, et c'est ce qu'était Rock Hudson dans la vie, en fait. C'était un homme double, déchiré par son image qu'il projetait et par qui il était lui-même. Et je pense que ce film-là, L'Opéra sur la Bouillie, est vraiment, en ce sens, est incroyablement symbolique, en plus d'être un film magnifique. Mais le film est un échec total à l'époque. Il ne va être découvert que quelques décennies plus tard. Donc, Rock Hudson va retourner à des gros films, des grosses productions, et notamment le dernier film qu'il va faire à l'Universal, qui s'appelle Tobruk, qui est un très très bon film d'action. C'est vraiment très spectaculaire et très réussi, mais c'est le Rock Hudson attendu. C'est pas le Rock Hudson tel que lui aurait voulu qu'on le découvre, enfin, ou qu'on l'apprécie en tout cas.
Oui, il y a ce Tobruk, le commando pour l'enfer qui est dans le coffret. Il y a aussi un film, je voulais qu'on en parle rapidement, mais avec Claudia Cardinal, qui d'ailleurs fit croire qu'elle était en couple avec lui pour le protéger du scandale, c'est ce qui ajoute de la classe à la classe qu'elle avait déjà par rapport à sa carrière. C'est Les Yeux Bandés, parce qu'il est signé Philippe Dune. Et Philippe Dune, c'est une légende de la lutte contre le macartisme, c'est le scénariste de L'Aventure de Madame Muir, c'est un bon film, mais c'est pas son meilleur travail. Mais c'est quand même une sacrée rencontre entre ces deux-là, Philippe Dune et puis Rock Hudson.
Oui. Alors moi, Philippe Dune, c'est quelqu'un que j'ai toujours beaucoup aimé. Alors d'abord, en tant que scénariste, il a quand même fait des films formidables. C'est vraiment un des grands scénaristes. Notamment, il a travaillé beaucoup pour la Fox. On lui donne un film que moi j'aime énormément d'Otto Preminger, qui est Ambre. Il a commencé dans la réalisation dans les années 50 et il a fait des très très bons films en tant que réalisateur. Je pense notamment à un grand mélo avec Gene Simmons qui s'appelle, en anglais c'est Hilda Crane, qui est très très beau, vraiment un des grands mélos dans la lignée de Douglas Sirk. Alors Les Yeux Bandés, je crois que si je ne me trompe pas, c'est son dernier film en tant que réalisateur. Et c'est effectivement une curieuse production. Alors, on est dans la tradition de Charade. Charade, c'est le film avec Cary Grant et Audrey Hepburn, qui a été un succès énorme et qui joue un peu du côté Hitchcock, mais c'est Hitchcock avec encore plus léger. Il y a beaucoup d'humour, on est entre la comédie, le suspense, deux acteurs fameux qui flirtent l'un avec l'autre. Et il va y avoir toute une ribambelle de films comme ça, dont aussi, je parlais tout à l'heure de Gregory Peck, il y a Arabesque, Sophia Loren, où là, justement, je trouve qu'on voit que, ce que je disais tout à l'heure, que Gregory Peck n'est pas tout à fait à l'aise dans la comédie, même si Arabesque est un film absolument charmant. Et donc, il y a Les Yeux Bandés qui jouent sur cette corde-là. Et c'est un peu comme Arabesque. Je trouve que ce n'est pas un film forcément totalement réussi, mais c'est un film qui a des choses intéressantes et qui a ce duo Claudia Cardinal et Rock Hudson. Alors, effectivement, ils sont devenus très, très intimes dans la vie. Ils sont devenus très amis. Et les paparazzi, ils voyaient un couple et Claudia Cardinal a joué le jeu tout en sachant très bien que son ami était homosexuel, mais elle a joué le jeu pour le protéger justement des paparazzi. Et puis bon, c'est Claudia Cardinal à sa grande époque. À l'époque hollywoodienne, c'est une des rares actrices européennes qui a vraiment réussi sa carrière hollywoodienne, Claudia Cardinal, même si elle n'est pas restée très longtemps là-bas. Et bon, comme elle nous a quittés il n'y a pas très longtemps, ça fait plaisir de la revoir. Elle est absolument super dans ce film.
Non, on est d'accord. Alors, le film Hilda Crane, c'était avec Marance, c'est avec Guy Madison, c'est L'Impudique. Il y a Jean-Pierre
oui,
Aumont aussi.
C'est
voilà.
Vrai. Donc, il y a Jean-Pierre Aumont dans sa carrière hollywoodienne et Guy Madison, effectivement. Ouais. Un des rares rôles sérieux de Guy Madison.
Voilà, donc c'est marrant parce que ça fait le lien. Bon, c'était pas volontaire, mais bon, voilà.
C'est vrai.
J'ai envie de vous poser. Une dernière question, mais qui peut amener une réponse assez longue, à mon avis, je pense, mais c'est pourquoi revoir les films avec Rock Hudson aujourd'hui ?
Alors, oh là, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. D'abord, parce que plusieurs de ces films sont vraiment de très, très grands films. qui aujourd'hui ont, certains ont marqué l'histoire du cinéma à leur sortie, d'autres, c'est avec le recul qu'on réalise à quel point ils sont importants. Je pense que Rock Hudson, il symbolise, je pense que pour comprendre l'Amérique et les Américains, voir des films de Rock Hudson, c'est un bon moyen de comprendre. Je pense qu'il est tellement l'incarnation d'un mythe américain, mais en même temps, et notamment aujourd'hui, parce qu'on sait tout ce que lui-même cachait, il y a le mythe, mais aussi l'envers du mythe. Et donc, on voit Rock Hudson, on voit le film, on voit les personnages qu'il incarne, mais on sait tout ce qu'il a été. Et je trouve que ça donne une vision absolument fascinante de la complexité américaine. Il y a aussi le simple plaisir de voir un très grand acteur, et de voir l'évolution d'un acteur. De voir comment il évolue d'un genre à l'autre au fil des années, comment son jeu s'approfondit, son charisme. Je pense que c'est. Il y a aussi. Pour moi, le cinéma, ça a toujours été une affaire de séduction. On va au cinéma et on est enchanté, séduit par ce qu'on voit, c'est-à-dire par les. Et notamment par les acteurs, par les actrices et les acteurs. Et Rock Hudson est quand même. C'est la séduction absolue. Il est assez irrésistible, Rock Hudson. Et notamment le Rock Hudson des années 50, il est quand même, sa beauté est renversante. Et les cinéastes, Douglas Sirk par exemple le sait très bien, la manière dont Douglas Sirk filme Rock Hudson, il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Et Rock Hudson le sait aussi. Il a joué de là-dessus dans sa vie intime, avec les hommes qu'il a suivis pour monter les échelons, mais il le sait aussi quand il est à l'écran. Mais en même temps, il est très conscient qu'il a façonné un personnage, qu'il présente ce personnage mythique au public, mais que ce n'est pas qui il est vraiment. Et d'ailleurs, il y a une citation que j'ai mis dans mon texte où il le dit. Il le dit, les gens voient Rock Hudson à l'écran, mais ils ne savent pas qui est Roy Fitzgerald. Ils ne savent pas qui je suis. Personne ne sait qui je suis. Tout ce qu'ils savent de moi, c'est Rock Hudson. Et Rock Hudson n'est pas réel. Et c'est une espèce de mythe. Et il y a un autre article de l'époque, ou qui est plutôt un extrait d'un livre que je cite, où l'auteur dit qu'en fait, le succès, par exemple, du Secret Magnifique, c'est que le héros n'est pas en soi crédible. Le parcours du héros du Secret Magnifique n'est pas crédible. Mais le public sait qu'il est en train de regarder un héros mythologique. Et Rock Hudson est parfait pour ça. Rock Hudson a cette espèce de charisme plus grand que la vie qui fait qu'il peut incarner aux yeux du public un certain mythe. Et c'est ça, Rock Hudson, c'est le mythe de l'Américain. Alors on sait aujourd'hui que ce mythe est faillible, qu'il est compliqué, que ça peut se casser la figure, que ça peut être détruit, mais ça reste un mythe quand même. Et je trouve qu'après toutes ces années, ces décennies, de revoir Rock Hudson, notamment dans les premiers films des années 50, ça nous replonge dans un univers... Donc cet univers mythologique que Hollywood savait très bien faire, mais en même temps on découvre autre chose derrière. Je pense qu'en plus on apprécie davantage Rock Hudson aujourd'hui parce qu'on sait ce qu'il a été et donc on peut l'analyser en fait. En même temps qu'on regarde les films, on peut analyser ce qu'on est en train de regarder. Alors qu'à l'époque les gens ne savaient pas en fait, ils avaient juste l'image et c'est tout.
D'un bel homme avec quelque chose d'un peu triste dans le regard, qui fait que c'est y a un petit truc en plus chez cet acteur, voilà. Bah écoutez, merci beaucoup Denis Rossano, parce que une fois de plus, vous nous avez. Si les auditrices et auditeurs écoutent l'émission, je pense qu'ils vont se précipiter tout de suite sur le coffret, parce
bien,
que
ouais.
Vous nous avez transmis votre passion. On peut lire votre plume dans le livret de 96 pages qui accompagne ce coffret et qui s'appelle donc Rock Hudson, portrait d'une légende, qui est disponible chez Éléphant de Film.
While others like the Turk and lose a lot of money on the jocks. Some men say judo is their dish, while others fish where mountain water swirls.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et Radio Graphite, graphite.net. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Une émission conçue avec le soutien de Damien Demédi, La Bête Noire de Compiègne, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.
And swim among the barnacles and pearls. his fingers.